C'est la première conférence de l'année à la Maison de la Nouvelle-Calédonie. J'en profite donc pour vous souhaiter tous nos voeux de la part de toute l'équipe de la Maison. Tous nos voeux, et en disant ces mots, j'ai le sentiment que cette année particulièrement, pour nous tous, ces mots-là sont un peu décalés. Alors je nous souhaite aussi de continuer de bâtir obstinément et avec toute l'exigence nécessaire ce vivre ensemble dont la Nouvelle-Calédonie depuis 3 décennies a su faire preuve et dont nous savons en Nouvelle-Calédonie à quel point c'est un travail de tous les jours. Pas un travail de grand discours, mais un travail quotidien dans la relation entre les hommes. Alors avec ce qui est arrivé récemment, avec ces événements qui nous ont tous sidérés, on se demande comment continuer d'avancer. Et il me semble que pour continuer d'avancer, il n'est pas inutile de faire halte et de regarder le chemin parcouru. C'est ce à quoi Amin Mokadem souhaite nous inviter ce soir, en réinterrogeant les paroles et les gestes posés dans des années particulières pour la Nouvelle-Calédonie, les années qui ont immédiatement suivi celles douloureuses dites des événements. Alors Hamid, je ne vais pas être très longue, mais je vais simplement essayer de vous le présenter. Beaucoup d'entre vous le connaissent déjà, mais tout le monde ne le connaît peut-être pas. Il est né le 27 mai 1959 à Auxerre, dans l'Yonne. En mars 89, il a à peine 30 ans lorsqu'il arrive en Nouvelle-Calédonie. Il s'investit de suite dans le champ de la formation, au centre de formation pédagogique de Touau, sur la côte est de la Grande Terre. Il y reste 4 ans. Repart à Tunis avant de revenir. Il est vrai que la Nouvelle-Calédonie, lorsqu'on l'a investi comme il l'a fait pendant ces 4 années, vous laisse difficilement repartir, ou en tout cas pas pour très longtemps. Il rompt son contrat à Tunis et la Nouvelle-Calédonie le rappelle. Il revient, intègre le lycée La Pérouse, puis l'Institut de formation des maîtres de Nouvelle-Calédonie où il enseigne encore aujourd'hui. Ami des professeurs agrégés de philosophie, il est docteur en anthropologie sociale. Il est l'auteur de nombreux articles et d'ouvrages dont les caractéristiques, c'est peut-être l'éclectisme des sujets qu'il aborde. Il va de l'analyse de l'œuvre politique de Jean-Marie Djibaou à la mise en perspective des écritures contemporaines en Nouvelle-Calédonie. Puis un jour, il constate, puisqu'il fait aussi partie de l'Association des écrivains de Nouvelle-Calédonie, que l'édition calédonienne laisse peu de place à l'essai, aux ouvrages de réflexion. Alors il prend son bâton de pèlerin, et puis il fonde les éditions Expression, auxquelles on doit, entre autres, un livre remarquable sur la monnaie kanak, Tewi Menjila, de Béalo Goni Wedoy. Mais où on trouve également la réédition des écrits du père Apollinaire Anova. Tous ces livres, nous les avons présentés dans la vitrine de la librairie. Vous pourrez, après la conférence, les découvrir, les regarder et éventuellement les acquérir. Hamid dit de lui qu'il est auteur par nécessité, éditeur par survie, chercheur pour trouver. Alors merci Hamid de partager ce soir tes quelques trouvailles avec nous. Je vais te laisser la parole pour une intervention qui va durer une petite heure, après laquelle vous pourrez effectivement discuter et échanger avec Hamid. Et puis on se retrouvera, comme de coutume ensuite, pour le verre de l'amitié. Merci beaucoup à tous.
Merci. Je vais me mettre au fond pour écouter. Bon, merci à la Maison de la Nouvelle-Calédonie de m'accueillir pour cette conférence, plus particulièrement à mon vieil ami Joël Viratel, et puis à toute l'équipe qui fait preuve d'efficacité, de bienveillance et de souci des autres. Et je tiens à le dire, ce n'est pas de la flagornerie, que la Nouvelle-Calédonie soit plein cœur d'une des villes, quoi qu'on en dise, des plus belles du monde, et qui est une ville de liberté, ça me semble important pour le rayonnement du pays, et qui est vraiment des intérêts entre ce qu'on appelle la globalisation, la petite île et le continent européen, surtout, comme l'a dit la collègue maintenant. Bon, je vais vous faire une conférence qui est axée sur... c'est une expérience, hein, qui est axée plutôt sur du visuel. C'est pour ça que je me mets debout. Et je vais reprendre un petit peu les travaux de terrain que j'avais fait en... de dire à propos de travaux qui ont été faits par d'autres que moi, qui ne sont pas forcément des professionnels de l'art, de la communication, mais je vais vous parler essentiellement de peinture, de sculpture et de musique. Alors, j'ai infléchi beaucoup le titre très bien choisi de ma collègue Anne Billan, et qui est un titre beaucoup plus modeste et beaucoup plus technique, qui est la question de... Les mots ne sont pas les miens, hein, la patrimonialisation, qui est un mot versus diffusion des pratiques culturelles, parce que je vais essayer de montrer que il y a mon ami Alban Bensa qui est dans la salle, qui a expérimenté ça, que dans des pays où le récit joue un rôle important, on ne diffuse pas n'importe comment, sous n'importe quelle condition, si ce n'est risquer, avoir des risques, des récits qui concernent le patrimoine. Donc je vais essayer de démontrer que la diffusion des pratiques culturelles en Nouvelle-Calédonie ne se fait pas comme dans nulle part ailleurs. Il y a des risques, il y a des enjeux dont je vais parler. Je vais me baser sur l'expérience que j'ai soulignée, l'expérience que j'ai eue de 89 à 93, enfin pendant 4 ans dans le pays, et je vais me baser sur ce que j'appelle moi les expressions des signes identitaires des pays kanak. J'expliquerai tout de suite ce que j'entends par pays kanak. Dans une séquence, bon, le mot est un peu pompeux, mais post-révolutionnaire. Alors je sais que les historiens disent comment nommer les événements. S'agit-il d'une guerre civile? S'agit-il d'une stasis au sens de Nicole Leroux, c'est-à-dire une guerre civile, une guerre intérieure, ou est-ce qu'une séquence révolutionnaire? Moi, je me base sur ce que disent les révolutions. J'appelle ça une séquence post-révolutionnaire, c'est-à-dire je suis arrivé après ce qu'on appelle les événements, et où on sentait quand même une tension. Alors, je vais essayer de montrer qu'au moment où je parle, mais même avant, dès 1774, ce petit peuple a toujours pratiqué des reformulations permanentes, ce que je vais expliquer tout de suite. Alors, le propos que je vais tenir, il va être basé sur du visuel. C'est pour ça que je me mets debout. Alors, avant de passer au visuel, je vais dire ma démarche, hein, sur quoi je me base... sur quoi je fonde mon discours, sur quoi il est structuré, sur les sources et les ressources. D'abord, premièrement, bon, je sais que mes collègues anthropologues vont être un peu en colère. Je mets de côté, délibérément, non pas que ces théories soient nulles et non avenues, je mets entre parenthèses, je les suspends, les théories que j'appelle occidentales. Il y a des théories qui sont percutantes et performantes, notamment certaines théories qu'on peut appeler les cosmosociologies ou ethno-historiques, bon, c'est des mots que je mets pour plaquer ce type de théorie, qui énoncent des thèses très pertinentes, mais toujours été de les mettre de côté pour privilégier les kanaks. Alors, je ne sais pas si le micro, si vous entendez bien. Oui, ou je peux parler sans micro. Non. Je ne suis pas aussi performant que les pop stars qui ont les... Bon, je continue quand même. Je disais que je mettais entre parenthèses, non pas que je les ignore, les théories des collègues anthropologues, qui sont toutes percutantes, pour privilégier quoi? Les théories, les conceptions, les pratiques que j'appelle autochtones, je dirais du pays, qui sont des pratiques, des théories, non pas... pas de théorie scientifique, enfin ça dépend ce qu'on met derrière les termes scientifiques, mais on base d'abord sur le discours tenu ou les pratiques tenues par les acteurs concernés eux-mêmes, c'est-à-dire les acteurs kanak. Donc au dépend donc des théories scientifiques ou anthropologiques, pour des raisons d'éthique et d'épistémologie dont je parlerai tout à l'heure. Alors, troisième point. Je le dis parce que ma collègue Anne Billan croyait que c'était une obsession de Mokadem. Le concept de reformulation permanente, ce n'est pas Mokadem. C'est un concept kanak. C'est un concept des pratiques. Le concept kanak de reformulation permanente, Djibaou l'a mis sur le devant de la scène, mais avant Djibaou, les kanaks pratiquaient sans arrêt ces reformulations permanentes que je vais expliquer. C'est vrai que c'est Jean-Marc Djibaou qui, avec le plus de talent et de rhétorique, a fait connaître ses pratiques de surmonter la tradition, reformuler la tradition dans la modernité, mais je tiens à dire que ce concept n'est pas le concept de Mokadem Hamid. Je puise dans les discours et les pratiques que j'ai pu observer, que d'autres ont observées, qui se basent à partir des sources et des ressources ancestrales, c'est-à-dire de formulation des pratiques modernes et ou nouvelles. Alors, qu'est-ce que ça, ça questionne effectivement une question qui est intéressante, qu'est-ce que c'est le contemporain, qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui. Voilà un petit peu le, la démarche que j'utilise. Hein. Alors, je me suis basé pour comprendre ce que c'est que la pratique et conception kanak du patrimoine des études et des recherches que j'avais faites, d'autres que moi. Il y a Alban Bensa qui a édité des textes de Djibo et Kering Wittgenstein, mais je me suis basé sur des travaux de recherche et des publications que j'ai faites longtemps après coup, notamment le livre Ce souffle venu des ancêtres. Je sais qu'il y a des gens qui ont été choqués, je n'ai pas mis mon nom propre. Normalement, ça se fait, il faut mettre son nom propre. Par stratégie, je voulais ne pas mettre mon nom d'auteur, mais c'est quelque chose qui, que les gens n'ont pas compris, qui ne se fait pas. Donc c'est un travail. Venu des ancêtres, ce n'est pas une expression qui est mienne, c'est une expression qu'on trouve dans les dictons au Kanak, qui est repris de Jibaou. Donc c'est, je me base sur des, le concept de reformation permanente, je le base sur l'étude d'une trajectoire, notamment celle de Jibaou, comme le concept de souveraineté. Il ne faut pas croire que c'est simplement l'Occident qui a inventé ces concepts-là. Il existe dans les théories politiques kanak des concepts, notamment des conceptions de la souveraineté. Alors, il y a quelque chose qui est à peu près certain, c'est que la notion de revaloriser le patrimoine, je pense, ne pas me tromper, qu'elle est vraiment contemporaine de ce que j'appelle la montée en puissance du nationalisme dans les années 80. Du jour où il y a eu une montée en puissance du nationalisme kanak, qu'il y a eu un souci de la part du peuple kanak de sauvegarder le patrimoine, de le préserver. Et chez Djibo, c'est clair, le patrimoine, c'est la métonymie, c'est la même chose que la revendication de l'indépendance. C'est une politique de l'indépendance. Donc je me base essentiellement sur des discours, des pratiques culturelles kanak. Je me base aussi sur un travail que j'avais fait, pas tout seul, j'ai été avec des gens dont je vais parler, qui a été diffusé et publié sous deux revues, deux magazines, Expression en 91 et 94. C'est un magazine, donc tous les photos que je vais diffuser se trouvent dans ces deux magazines-là. C'est le premier, j'ai eu le premier à faire ces photos macroscopiques sur les nattes en pandanus, après ça a fait un effet de mode, tout le monde a repris ça en Nouvelle-Calédonie. C'est une photographie sur la monnaie, enfin l'andi dont je parlerai, et ici c'est un tertre, un tertre d'ignage, un bidar moi, comme dit en Chimouki, de Poindia, qui se trouve à côté du centre où je travaillais. Donc tous les photographies que je vais projeter proviennent de ces deux magazines culturels qui remontent bien sûr dans les années, ce que j'appelle la séquence post-révolutionnaire 89-94. Alors, où j'ai travaillé, ça a l'air d'être évident pour certains, mais quand je parle de pays kanak, je ne fais que traduire des catégories ou des concepts qui sont prononcés dans les langues kanak. En pays Tiamouki, on dit Amou, il y a d'autres termes dans les langues kanak. Ce sont vraiment des pays qui existaient bien avant les transferts ou les transports des institutions de la France en Nouvelle-Calédonie. Je veux dire que moi j'ai travaillé sur la côte Est, hein, mais bon, de Belep jusque toute la côte Est, y compris à Kounié, l'île des Pins. Mais ce qu'il faut entendre par pays kanak, c'est vraiment des pays délimités par des chiffries, des langues, et qui vont être après mises dans des relations de superposition avec des autres découpes territoriales, des découpes institutionnelles qui ont été faites plus tard, qui ont été territorialisées d'abord en région, ensuite en province, en commune, en découpées en terres domaniales, coutumières et privées. Mais c'est que, je ne vais pas refaire l'histoire, il y a eu des spoliations foncières, il y a eu des découpes institutionnelles et administratives avec lesquelles les acteurs composent. Mais il faut bien comprendre qu'à l'heure où nous parlons, il y a quand même des pays kanak qui existent avec des échanges économiques qu'on appelle des échanges coutumiers. Donc quand je dis que j'ai travaillé en pays kanak, c'est dans des zones provinciales, province nord, province île, province sud, mais qui sont superposées à ce qu'on appelle, à ce que les kanak appellent les pays kanak. Alors j'ai travaillé aussi en pays Djéhou. Alors les îlots, les spoliations foncières, ils ont connu une autre colonisation religieuse. Les découpes sont beaucoup mieux respectées. Vous avez les trois chefferies, district de Wetch, Gaïcha et Le Si. Et j'ai travaillé beaucoup avec les gens de Nassalo, dont vous verrez tout à l'heure. Voilà les lieux dans lesquels j'ai pu faire les. Le premier travail que j'ai fait. Oui. Excusez-moi, à tout à l'heure. Mais bon, je vais parler quand même, je ne vais pas m'arrêter. Alors, je disais que la démarche que je vais suivre, je vais d'abord, parce qu'on parle de sources ancestrales, je vais d'abord expliquer grosso modo les expériences que j'ai eues sur le socle culturel kanak, c'est-à-dire que les anciens. Et on avait, je dis on, était une équipe d'élèves stagiaires qui n'avaient pas un capital scolaire très étendu. Certains n'avaient pas le bac, donc on était en formation continue. Et on a travaillé avec ce qu'on appelle en Peitimoki, enfin, qu'on traduit par des chefs, plutôt des dames, des porte-paroles, des chefferies, dont certains sont connus. Jean-Baptiste Pita Bovin a travaillé avec le linguiste Jean-Claude Rivière sur le dictionnaire de langue Timoki. Le grand chef Kowi Bouliek de Poi, qui était un petit peu l'intercesseur qui réunissait tous ces porte-paroles des clans. Bon, puis la plupart sont décédés. Hein, donc on avait travaillé avec eux dans ce que j'appelle une pratique dialogique, sinon pas, on ne les considérait pas comme des informateurs, même si par ailleurs j'allais les avoir. C'était une pratique dialogique. Tous les échanges se faisaient en langue Timoki. Il y a des gens, là, il y a une jeune, enfin, elle est décédée d'un accident automobile, Josiane Parakagul, pour ceux qui connaissent. Donc on travaillait ensemble, et c'était l'époque des accords de Matignon. Lionel Jospin était à l'époque ministre de l'Éducation, donc il avait autorisé une circulaire d'adaptation pour 5 heures et d'honneur, d'adaptation de la culture kanak dans les programmes, culture kanak et océanienne. Mais nous, on n'a pas attendu la mise en place des provinces. J'ai profité de l'opportunité d'être dans un centre de développement pédagogique pour mettre en place un travail avec les chefferies de Tours. Donc on travaillait, on a fait un espèce de questionnaire qui était publié après en 90, qui était intitulé « Inventaire de quelques traits culturels kanak en pays Timoki », qui était contemporain donc la circulaire Jospin. Donc c'est un travail qui se basait qu'est-ce que c'est que la structure de parenté dans le monde kanak et comment on peut l'adapter dans les écoles, qu'est-ce que c'est que l'ignam, etc., etc. Donc on avait travaillé avec ces porte-paroles chefferies avec quelques élèves maîtres de Tours, dont Noël Poignidé, qui était trilingue, qui parlait le pachi, tiamoki, le français, qui faisait le travail de traduction. Je tiens à dire une petite parenthèse, que le questionnaire a été rédigé avec des élèves maîtres, et qui était beaucoup plus percutant et pertinent que moi, qui disait qu'il faut commencer par la place de l'enfant dans le clan pour élargir. Donc c'était, ils avaient des questions très, très pertinentes. Un des éléments qui structure un petit peu les sociétés kanak, je ne vais pas parler de tous les éléments, ce qu'on appelle maintenant le socle commun des valeurs coutumières, bon, c'était la monnaie kanak. Alors, en dehors du métier, j'allais voir des artisans, notamment Amoun Moïse Wato de Koé, qui fabriquait de la monnaie. Et la monnaie qui se dit en langue Timoki, Andi, qui est à peu près le même mot qu'en Paichi, Madame Marie-Claude Gibeau porte le nom Andi, il y a peut-être un sens et une fonction derrière. L'Andi, c'est ce qui traduit en fin de compte, si vous voulez, quand moi je demandais une traduction littérale de ce que voulait dire l'Andi, le vieux Kowi Bouliègue, il ne me répondait pas par des éléments d'information. On va le voir, il me racontait un djamma, un récit généalogique. Je lui posais la question, pourquoi les monnaies kanak sont très hiérarchisées? Vous avez les monnaies noires, qui sont faites pour les chefferies, les mariages un peu importants, d'autres monnaies qui sont très hiérarchisées. Et je me posais la question, pourquoi il y avait une monnaie qui était tressée en poil de roussette, qui s'appelle Moranjo? J'allais le voir à 3 reprises, et lui, il ne me racontait pas, il ne me disait pas, c'est parce que c'est ceci, c'est parce que cela. Il racontait un récit généalogique et historique sur l'origine des louis des bails. Et dans le récit, il précisait que la monnaie s'appelait Andiaïté. Andiaïté, c'est-à-dire qui va loin dans le temps et dans l'espace, qui permet de sceller des liens malgré les distances qu'il y a. Alors, il y avait une contradiction déjà dans la monnaie, puisque le vieux Agathe Pabouti, le vieux Agathe Pabouti, qui est le papa de Raymond Pabouti, pour ceux qui connaissent, lui, il racontait la monnaie, mais telle qu'elle était pratiquée ou fabriquée avant. Et lui, l'artisan, Amoun Moïse Boiteau, qui fabrique de la monnaie avec des poils de laine, non plus des poils de roussette, disait, mais les vieux qui vous parlent de la monnaie, ils parlent d'une monnaie qui n'existe déjà plus. Parce que lui, il fabrique des monnaies avec les éléments qui sont des éléments comme, il n'y a plus le coquillage, il n'y a plus le poil de roussette, c'est de la laine, etc. Mais la structure de la monnaie, sa fonction, elle persiste, elle permane. Je veux dire par là que la monnaie, bon, les photographies ne sont pas de bonne qualité, il n'existait pas de numérique, c'est moi qui ai pris les photos. Hein. Si vous prenez la monnaie, vous avez toujours, on parle de maison de la Nouvelle-Calédonie, la monnaie c'est le personnage qui est dans un étui qu'on appelle moi. Moi c'est exactement le concept toponymique qu'on retrouve dans Bida à moi, qui traduit tertre lignage, l'enveloppe, la case, la maison, qui correspond au fénoa des Polynésiens. Donc vous avez dans la monnaie ce que j'appelle un élément qui exprime la totalité, que disent certes, je n'ai rien inventé, c'est ça, d'autres anthropologues l'ont dit avant moi, que dans la monnaie, vous avez toujours, si vous regardez bien et si vous l'analysez, vous avez bon, l'étui qui représente la maison, la tête, les parties, l'extrémité, et il y a toujours cette symbolique hiérarchique qui exprime l'anatomie politique des pays kanak, et en même temps qui exprime comment dirais-je, la hiérarchie qui existe dans les relations d'échange. Ce n'est pas n'importe quel type de monnaie qui est donnée dans les échanges, etc. Alors, bon, je vais aller un peu plus vite. Vous avez les parties, donc vous avez des travaux qui ont été faits sur la tête, le tronc, le bras, qui symbolisent la monnaie. Ça, c'est un des éléments sur lesquels on avait travaillé pour essayer de synthétiser, pour voir comment on peut adapter ça dans les écoles. On faisait comme si on faisait les programmes scolaires. L'autre élément important, c'est les récits. Alors, il y a Alban Bensaki là, il a travaillé énormément là-dessus, bien longtemps avant moi. C'est vrai que les structures sociales kanak s'expriment par le récit et les traditions orales. Et les contresens qui sont commis, les récits, ce n'est pas des contes qu'on peut transmettre dans les écoles. Les récits sont des récits généalogiques, mais sont des récits historiques. D'où la difficulté de divulguer quelquefois des récits. Par exemple, moi, je me suis posé la question, je travaillais ici, décidément, je me rappelle les crayons, je travaillais ici à côté à Poinia, qui est un tertre, qui est considéré comme un endroit sacré ou tabou. Le centre était construit à côté. Je voulais connaître l'histoire de Poinia. Donc je suis allé voir le fils du chef Norbert Pauteta, Ounin, qui est ici. On est allé voir une dame qui s'appelle Angélique Tiani, qui nous a raconté l'histoire. L'histoire des clans qui ont été disséminés, etc. Mais ce qu'il y a de fascinant, que ce soit en pays Kiomuki, ou plus loin, à Hopmawap, en pays Kirak, à chaque fois, les stratégies politiques au sens extensif du terme, des structures sociales kanak ou des porte-parole kanak, c'est de raconter des récits qui décrivent les itinéraires des clans qui ont fait des ancrages dans le foncier par ce qu'on appelle des tertres. D'où la difficulté de définir ce qu'est un clan en pays kanak. Alors le deuxième récit, on avait stratégiquement avec Jean-Baptiste Laval, qui est ici, son grand-père qui est mort, Célestin Toaou Mouaou, on avait fait un même travail à Puebo, en dehors des institutions, parce que les institutions ne voulaient pas qu'on fasse ce travail en dehors de Touo. Mais bon, acte de rébellion oblige, je faisais ce travail-là avec les élèves maîtres qui étaient des camarades. Et puis, en dernier moment, il posait la question à son grand-père, « Tu ne peux pas nous raconter l'inog, le récit du requin blanc qui est à l'origine de le paradis souterrain, l'embouchure de la Wayem à Yengen ?» Et il nous a raconté un récit qui a l'air de rien, c'est un petit récit comme ça, mais derrière, c'est des stratégies de déplacement, de conflits, de clans. D'ailleurs, dans tous les récits généalogiques et les récits historiques, au départ, il y a toujours un conflit. C'est violent. D'où la nécessité des clans de se disséminer, d'aller se segmenter et de se multiplier ailleurs. Alors, on a fait le même travail à Lifou, dans la chefferie de Nassalo, avec Chawan, Chaikolo. C'est un récit qui a été raconté par son père lors de son mariage. J'ai eu la chance d'être invité à son mariage en mai 89. Mais quand j'y pense, j'ai vraiment une chance incroyable, parce que je pensais qu'au départ, c'était du bluff, mais le récit généalogique du clan de la chefferie de Nassalo, transmis par son père qui est décédé, il l'a fait dans un rituel très précis. La transmission ne s'est pas faite n'importe comment. C'est le rituel que les gens de Jéhu appellent Nipiach, c'est-à-dire que quand lui est devenu mari, il a un statut d'homme, un statut dans la hiérarchie, c'est à ce moment-là que son père lui a dévoilé le récit. Et mettez-vous à ma place, moi j'arrive de France. Puis tout d'un coup, lui, il apprend le récit généalogique de son clan, et je me dis, c'est quand même incroyable, cette situation de transmission de savoir. Donc, le problème, et c'est un des problèmes délicats au niveau épistémologique et éthique, c'est qu'on a traduit le récit par son grand-père qui est décédé, hein, puisque le papa est mort entre-temps, et puis, depuis, Chawan refuse qu'on divulgue le récit, parce qu'il y a des conflits sur la succession de la chefferie Nassalo-Siazé. Vous voyez, c'est un des problèmes. On ne peut pas divulguer tout et n'importe comment, parce que ce n'est pas qu'un conte, c'est un récit qui raconte le patrimoine des chefferies et des clans, des récits historiques. Donc du coup, je mets en stand-by, c'est normal, je ne vais pas diffuser, rediffuser pour créer des conflits. Des conflits qui peuvent être violents, hein, comme on décrit par exemple Michel Naples dans ses travaux. Alors là, c'est le papa de Chawan Jaikolo qui est décédé dans la case. Et l'église de Nassalo. J'ai mis ces deux photos côte à côte parce que vous voyez la superposition, moi je ne dirais pas le syncrétisme, je dirais une superposition entre le champ religieux de le monothéisme chrétien avec les récits et les pratiques ancestrales kanak. Chose sur laquelle je reviendrai sur la sculpture de Passa tout à l'heure. Donc ça, c'est la partie du socle culturel ancestral. Si délibérément, j'ai mis une diapositive vide pour se poser la question, quelles sont les pratiques culturelles aujourd'hui ? Que j'ai pu voir lorsque j'étais prof de psychopédagogie à Tours, je voyais tout d'un coup une émergence des signes identitaires par des expressions picturales dont je vais parler, notamment les guérites de bus. Alors je vais vous parler des pratiques picturales. La première qui est connue, c'est celle de Ignace Wema, avec sa fille. J'ai pris la photo en 91. Donc très empiriquement, moi j'ai fait un travail bête et méchant, j'ai pris tous les auteurs de guérites de bus et je les ai interrogés, de Wailou jusqu'à Yengen. Avec des quipropos qui sont un peu comiques, parce que j'ai interrogé des gens, c'était des peintres en bâtiment, c'est-à-dire qui peignaient la guérite de bus, puis je me suis aperçu que ce n'était pas des peintres artistiques, c'était des peintres qui restauraient les bus. Alors le premier qui a peint cette guérite de bus, c'est Ignace Wema, et vous voyez, il la restaure encore jusqu'en 2014, et au départ, quand je l'ai vu, quand je l'ai interrogé, il me disait qu'il y avait des destructions faites par des gens qui n'étaient pas d'accord, parce qu'il y avait Loi Machereau. Donc lui, sa stratégie, c'était de peindre une guérite de bus qui était sur la route, pour dire, je reprends ses propos, hein, ouvrez les guillemets, hein, c'est pas Mokadem Hamid qui parle, hein, je reprends les propos, pour marquer le territoire FLNKS, pas le territoire de Kanaki. Kanaki, le mot n'existait pas encore, il apparaît en 85. 84, le territoire FLNKS. Même mot qu'emploiera Benjamin Daïté de Yengen, dont je parlerai tout à l'heure. Donc la première guérite de bus se trouve à Kula, à Wailou, et elle marque l'entrée dans un territoire FLNKS. Elle a été faite en 84, il me dit que sans arrêt, elle a été détruite, et puis lui, comme... une forme de restauration, une forme de patrimonialisation, à chaque fois il a repeigné, jusqu'à maintenant. Hein. C'est-à-dire que les autres guérites de bus sont en détérioration, mais lui, il la restaure par une espèce de fidélité à l'image, la figure qui est devenue une figure ancestrale du leader politique nationaliste kanak et Loi Machereau. On arrive à Point d'Imia, Pierre Chanel de Peu, qui est un animateur culturel, ça c'est une photographie que j'ai prise quand je faisais l'entretien au centre de développement où je travaillais, qui a peint avec des petits jeunes des guérites de bus de Ouagap. Je tiens à préciser, parce que les peintures que vous allez voir, bien sûr, il y a un côté de certains qui font une revendication politique, mais Pierre Chanel de Peu, comme Kouaté, dont je vais parler tout à l'heure, eux, disaient, n'étaient pas d'accord avec la revendication que des leaders politiques nationalistes. Eux, ils disaient, il faut égayer les guérites de bus, parce que les enfants sont dedans, donc on va marquer le coup en mettant des éléments qui font partie du paysage culturel kanak, des cases, le totem du lézard, parce que c'est le totem des clans des Lepeux, puis d'autres éléments. Alors, sur tout haut et point d'Imier, c'est des guérites de bus qui ont été peintes en 90, par rapport à Wailou, 84, et qui étaient une commande faite par les deux mairies du Palika, de Paul Néotine et Dan Poigoun, parce que Louis Le Pin Sec devait arriver, donc c'était pour montrer que Louis Le Pin Sec allait rentrer dans un pays kanak, malgré les accords de Matignon-Oudinot, à cause des accords de Matignon-Oudinot. Donc il y avait une stratégie quand même que je n'avais pas perçue dès le départ, mais qui était une stratégie quand même politique de la part des deux mairies. Alors, Anatole Kouaté, j'ai oublié de dire, aucun n'est un artiste professionnel. Hein. C'était un appel d'offres. Les mairies employaient des JSD, les gens étaient au chômage, ils les employaient, donc ils leur donnaient une rémunération pour faire... Il y avait une commande, puis chacun peignait des guérites de bus. Alors, Anatole Kouaté, c'est un employé municipal. Lui, les guérites de bus, c'est une guérite de bus, hein, ça, tous ces abribus. Lui, il peignait des paysages, des cases, des éléments très traditionnels de la culture et de la société et la civilisation kanak. Ah, il ne veut plus. Technique, ça peut être parfait comme ça peut être. Alors je vais là-bas. Donc Anatole Kouaté, lui, Pierre Chanel Le Peu, Anatole Kouaté, qui sont tous les deux de Point-d'Imier, eux, ils ont décidé délibérément de peindre des éléments culturels. Vous allez voir qu'il y en a d'autres qui vont faire les éloges, une sorte de martyrologie des leaders kanak qui ont été, ou des militants kanak qui ont été tués à cause de leur action politique. Si vous regardez bien, je suis retourné récemment, avant de venir ici, j'ai pris une photo de la même guérite de bus, vous voyez dans quel état elles sont maintenant. Donc c'est pour montrer qu'il y a vraiment, au moment, en 91 quand c'était peint, après en 2014, ça a été laissé détériorer tel quel. Est-ce que c'est moi qui porte la poisse ou quoi? Alors, pareil dans la vallée d'Amois, ce sont des paysages symboliques kanak, la pirogue kanak, mais aussi, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que l'histoire des civilisations et des sociétés kanak s'inscrivent dans le foncier. Et quand il y a des paysages, on a l'impression qu'ils ont l'air sauvages, etc., ils sont, marquent un ancrage, en fin de compte, historique, et donc avec des noms. Il n'y a pas un seul nom, il n'y a pas un seul endroit dans les endroits kanak qui ne porte pas un nom. Vous avez, c'est des formes de toponymie qui servent en fin de compte à structurer le récit et l'ancrage. Alors là, on passe. Là, vous aviez des gens qui ont décidé de peindre des éléments culturels. Là, on passe à Elia Ramoto qui est décédé depuis. Hein, ils sont tous pratiquement décédés de morts violentes, d'accidents de voiture ou de maladies. Elia Ramoto, Poindi Painda, quand je les ai interrogés, eux, ils disaient moi, je suis militant indépendantiste. Il faut bien comprendre ce qu'il voulait dire. On était en 89, signature des accords de Matignon-Oudinot. On pouvait penser que les gens sortaient de la revendication. C'était la négociation, la construction économique. Mais non, certains disaient, moi je marque mon militantisme par la peinture. Donc le choix qui a été fait par Elia Ramoto, on peut revenir en arrière, c'est de superposer une image qui est très connue, l'image de Ataï, qui est un des leaders charismatiques très connu maintenant à cause de la tête d'Ataï de l'insurrection de 1978, et Ndoui Manéa, Noël, de 1917. Il les superpose alors que, bien sûr, qu'il y a des différences de chronologie. Vous allez voir que cette superposition, cette forme de synchronisation ou de superposition de dates, qui fait partie de la mémoire orale kanak, on la trouve même chez certains peintres qui vont mettre sur le même plan Ataï avec Eloi Machoro. À juste titre, je vous expliquerai pourquoi. Alors, pareil, Elia Ramoto fait, lui, une véritable martyrologie de la mémorisation en tant que résistance politique. Richard Kamouda, qui est un militant beaucoup plus contemporain, qui s'est fait tuer par des gendarmes. Et puis, comme je vous disais, la superposition de Ataï avec Machoro. Superposition qui a du sens, puisqu'il est attesté du point de vue oral, mais moi j'ai pu l'attester en faisant des entretiens en pays Harachu, à Kanala, que Louis Machoro, son frère, me disait, mais il ne me disait pas ça de manière délibérée, on dit des conversations informelles, que Eloi Machoro sans cesse n'inscrivait son action en pensant à Ataï. Sachant qu'effectivement le chef Nondo participé à une forme de trahison de Ataï, donc il y avait une forme de réhabilitation, mais la trajectoire, les actions de Eloi Machoro, sans arrêt, il les inscrivait dans la trajectoire plus ancienne de Ataï. Donc Elia Ramoto n'a pas tort, c'est perçu comme ça par le monde kanak. Mettez-vous à ma place, moi je ne vais pas trahir ce qu'ils disent. Eux, ils pensaient qu'il y avait une révolution, même si ça déplaît aux historiens. Non, on ne parle pas de révolution, on parle de guerre civile. Bon. Eux, ils pensaient qu'il y avait une révolution, et je pense qu'ils avaient raison, puisque c'est à partir de 84-85 que le peuple kanak se constitue en peuple national de kanaki. Même si ça existait avant, c'est cette période-là. Donc, pour les militants de l'époque, Eloi Machoro était superposé sur le même plan que Ataï. Alors, bien sûr, ça choque la chronologie de l'historiographie européenne, mais il n'empêche que dans la mémoire orale et historique kanak, il n'y a pas contradiction. Alors pareil, là, à Touho, c'est délibérément quelqu'un qui est décédé encore dans un accident d'automobile, Jean-Marie Poidja. Lui, délibérément, il a été choisi par le Dan Poigoun, c'était un militant du Palika qui était repéré pour son talent. Lui, délibérément, c'est que des portraits de leaders ou de militants nationalistes kanak. Ça, c'est la photo de l'époque où il peignait, en 91. On peut revenir. En 91, à côté, là, ici, d'Awano, qui s'est fait tuer à Conception. Et là, voilà la même photo, la même grille de bus en 2014, qu'elle est devenue. Il est clair que lui, il peignait, il était accompagné de Marcel Pouillou. Marcel Pouillou faisait la couleur, et lui, il dessinait en une vitesse, en une minute, deux, trois minutes, il faisait des portraits sur les bus. Alors, j'ai délibérément mis ça à côté parce qu'il y avait, pour montrer qu'il n'y avait pas que des gens qui faisaient que des revendications sur des leaders politiques. Là, c'est des petits jeunes qui avaient à peine 15-16 ans. Il y a Jean-Claude Goyetta qui avait peint ici à côté. Mais quand je l'ai interrogé, il était à l'île de l'Oubli, au camp Est, dans la vallée d'Amois. Et puis, il y a un jeune qui s'appelle Nebeaou. Vous voyez, lui, ce n'est pas du tout la conscience politique kanak, c'est le scorpion. groupe de musique, je crois que c'est un groupe de musique allemand, il me semble. Donc vous voyez qu'il y avait un peu de tout. C'est un jeune de 16 ans qui est employé, lui faisait des peintures sur la musique pop. C'est pour, je dis délibérément parce qu'il ne faut pas tout réduire les peintures murales simplement à des revendications identitaires, culturelles ou politiques. Alors voilà Jean-Marie Poinjac qui est décédé avec Marcel Pouilloux. Ça c'est du côté de Touhot. Ça aussi c'est du côté de Touhot. Lui délibérément, alors c'est pas lui qui a fait cette peinture de Marley. Cette peinture existait déjà, il l'a reprise. Donc il a repris en dessinant dessus, et le coloriste c'était Martial Pouilloux. Donc il y avait une stratégie bien sûr audiovisuelle, parce que si vous allez en voiture, vous traversez Poindimier, puis vous allez surtout, vous êtes obligé de voir les guérites de bus. Donc la stratégie c'est de montrer, de percuter tous les leaders nationalistes canaques dans la visite de Louis Le Pin Sec. Que certains disaient, bon, c'est des plaisanteries de l'époque, heureusement qu'il ne va pas pleuvoir, sinon ce sera le pain mouillé, mais bon. Enfin, c'est pas moi, c'est des, bon, des plaisanteries du peuple. Le drapeau kanaki, bien sûr, à l'époque. Alors, c'est encore Jean-Marie Poinjac. Vous voyez, il y a deux styles différents. Là, c'est Ataï, représenté les guérites de bus de Touhot. Là encore, c'est clairement un ancrage historico-politique qui est délibéré. Peindre des leaders politiques ou des leaders de Jifri Kanak. Alors, c'est la dernière guérite de bus à Yengen. Le jeune qui a peint ça s'appelle Benjamin Daïté. Il a peint ça au moment où il occupait les barrages de 84, et je suppose après, parce que je me suis trompé là, c'est pas 85, c'est pas possible. Il faudrait que j'aille revoir, parce que Alphonse Dianou, c'est le leader, un des leaders nationalistes Kanak, qui commandait le commando des chiffres du Nord d'Ouvéa et qui a été tué après l'assaut de la grotte d'Ouvéa entre les deux tours des élections présidentielles. Donc lui, il a peint à Yengen, il me disait à ses heures perdues quand il occupait le barrage, puisque Éloi Machaureau, il ne faut pas croire qu'il était statique. En 84, il a décidé, Éloi Machaureau, du 18 novembre 84 jusqu'à son exécution, assassinat, enfin, neutralisation par le GIGN, vous choisirez le mot. Je ne suis pas là pour faire des pessimogies d'histoire, le 12 janvier 85, il n'arrêtait pas de sillonner tout le pays, en déjouant des contrôles des gendarmeries, des contrôles des milices anti-indépendantistes, qu'on appelait les loyalistes à l'époque, pour faire des propagandes, pour pousser tous les pays kanaks derrière la cause du peuple kanak. Et donc, le jeune Daïté a entendu Éloi Machaureau. Et quand il peignait la guérite de bus, en 84, au même moment que le garçon de Wailou, il peignait délibérément parce qu'il avait entendu Éloi Machaureau, qui était considéré pour lui comme un leader politique important, aussi important que Jean-Marie Djibaou. Alphonse Dianou, je me suis trompé, il a dû la peindre plus tard, parce qu'Alphonse Dianou est mort en 88. Il faudra que j'aille le revoir pour demander à quel moment il a peint cette portrait. Mais vous voyez que lui a décidé. Alors lui, c'est quelqu'un qui est très timide, il peignait à l'abri des regards, il n'aimait pas peindre quand les gens le regardaient, et c'est aux heures perdues, quand il, dans les barricades, dans les barrages, il peignait des guérites de bus, et la dernière guérite de bus qui se trouve à Yengen. Donc tout ça, c'est un ensemble de peintures. Pour faire bref, la première peinture de Wailou existait déjà, 84, Yengen aussi, mais tout au point d'igné, j'étais contemporain, au moment où j'étais prof de psychopédagogie, comme on disait à l'époque, au centre de développement pédagogique de Touhot, les guérites de bus étaient en train d'être peintes. Donc j'ai profité de ça pour faire un entretien, puis travailler avec les peintres qui n'étaient pas des artistes. Là, on va passer un autre peintre. Voilà, c'est un gros plan de Éloi Machaureau. Je trouve quand même, indépendamment du côté sociologique, il y a un travail quand même très, très fin. Ce n'est pas des gens qui sont artistes. Hein, ils faisaient ça comme ça. D'ailleurs, j'aurais posé la question, est-ce que vous désirez faire ça en métier? Les jeunes disent, non, moi, je vais être pilote d'avion. Le jeune de Touhot me disait, non, ça ne m'intéresse pas, je vais faire autre chose, etc. Ce n'était pas leur vocation de devenir artiste peintre, etc. Alors, là, c'est un autre peintre, c'est Ali Fou, l'île que je vous ai montrée tout à l'heure. C'est Narwan Goupiko, qui à l'époque était employé municipal, maintenant qui est retraité. Et quand je faisais un travail avec Sherwan Jaikolo sur les chefferies, j'en ai profité. C'était Ukewen, un des membres de conseiller de la province des îles Loyauté, qui m'avait dit conseiller d'aller le voir. Je vais voir le vieux Goupiko qui est ici, hein, au centre, avec toute sa famille. Le pain est fabriqué maison, le petit morceau, c'est moi qui l'ai mangé. Tout est maison. Et il fait des peintures qui sont assez étonnantes, qui n'ont rien à voir avec la peinture murale. Là, pour le coup, c'est un artisan et qui fait des peintures à côté de son métier. Et il ne cesse de peindre, pourquoi je le mets dans le cadre de la patrimonialisation, il ne cesse de peindre de manière minutieuse, comme des miniatures, des scènes sociales de la vie quotidienne, notamment le cricket. Le cricket est importé, bien sûr, par les pasteurs protestants, bien sûr, mais maintenant, c'est un sport qui est complètement intégré dans les mœurs et coutumes et sociologie, surtout des femmes kanaks, avec la robe mission, etc. Donc vous allez voir, toutes les peintures qu'il va faire, c'est des peintures qui dépeignent toute la quotidienneté du social. Je ne vous cache pas que je vais faire un petit livre sur lui, parce que ce qui est étonnant, c'est que ces peintures-là, elles sont vendues, il fait des sculptures, etc. Puis il n'y a rien, il n'y a pas de livre, etc. Donc je l'ai revu 20 ans après, ça fait une drôle d'impression d'ailleurs, de voir 20 ans quelqu'un après. Il me dit, je t'attendais. Enfin, bon, je ne sais pas si bluff. Bon, on va faire un livre ensemble sur ces peintures, enfin, si Dieu veut. Alors, on va diffuser quelques-unes de ces peintures, je ne suis pas exhaustif. Ici, c'est très important, parce que c'est l'ancienne mission de Nassalo, c'est l'ancienne chefferie, qui n'existe plus, qui a été restaurée. Donc, il peint à la fois des scènes de vie quotidienne, mais aussi, de manière implicite, l'histoire des chefferies. La chefferie Nassalo, qui est une chefferie très importante, qui se superpose aussi avec la mission catholique, cette chefferie-là n'existe plus. Il peint des scènes de la vie quotidienne comme une femme en train de moudre. Alors je reviendrai pour lui poser des questions de détail sur exactement ce que c'est quoi du café, etc. Vous voyez que c'est que des scènes locales, que ce soit des scènes artisanales, de paysages, etc. Alors la construction de la case, qui est une scène typiquement artisanale kanak, et la baie de Chateaubriand, qui est un paysage de Lifou. Donc lui, délibérément, Ernest Naranglou-Picot, décide de peindre tout ce qui est paysage, scène de la vie quotidienne, et le côté politique, il le met de côté. Ce n'est pas son problème. Ça ne l'interdit pas pour avoir des idées politiques très prononcées. Mais ce n'est pas son style. Alors je passe à un autre registre, c'est les pratiques, non pas visuelles, mais sonores, la musique. Alors quand j'ai interrogé les gens du groupe Djamma, qui étaient en train de construire des baraquements pour une fête, en 90, je crois, 90-91, il préparait un festival à Tieti. Ce groupe-là, avant, faisait des balles et il faisait plutôt de la musique reggae. Il s'appelait Rasta. Et il y a eu une longue concertation que vous connaissez tous hein, pour la création. Enfin, ça remonte plus loin. Bien sûr, ça date des années 80-81. Il y a une réunion avec Chris Band, Wenjep, Jamma, Walewen, enfin, comment il s'appelle, le musicien de Marie Walewen, bon, d'autres qui ont décidé de faire de la musique kadeka, c'est-à-dire à partir des musiques, des rythmes traditionnels, la reformuler de manière moderne, de manière permanente. Ce groupe de musique, de musiciens, ont changé le nom. Rasta, ils sont appelés Djamma, qui est le terme, c'est mal transcrit, hein. C'est le terme en langue païchi qui désigne les récits généalogiques des clans. Et quand je suis allé voir, ils étaient en train de travailler à un mini-festival des deux tribus, et la construction de la case était faite, et l'arrière-fond musical était fait par le groupe Djamma, avec un récit décliné par un ancien. C'est-à-dire que c'est une case qui est reconstruite par les danseurs, il y a un récit généalogique qui est scandé par un orateur, et derrière, il faisait la musique de fond. Donc là, vous avez ici une forme de militantisme culturel, comment s'approprier des rythmes qui existaient, l'AIAE, ou les musiques traditionnelles du patrimoine ancestral, comment les reformuler dans la modernité, dans la formation permanente. Ce qui a donné une des composantes du Kaneka, avec d'autres groupes, hein, Buenjep, de Yengen, et d'autres groupes. Alors, je n'ai pas travaillé qu'avec que les musiciens Kaneka, bon, c'est un peu plus show business, mais quand même, ils sont dans la tradition du Tchap, les gens de Lifou. Bon, Chedo Nasson, on était ensemble au centre de Touo, c'était un élève maître. Vous voyez, je travaillais avec des gens quand même qui avaient un capital culturel, ce n'étaient pas des petits élèves dociles. Il y en a qui étaient sur les barrages, d'autres qui étaient pasteurs, d'autres coutumiers. Donc j'ai eu la chance de travailler avec des gens qui avaient un capital culturel, syndical ou politique extrêmement important. Et Philippe Iwan, qui est le chauffeur de tous les hauts commissaires qui défient la République, il est toujours chauffeur. Et ils avaient monté un groupe qui s'appelle Neybatch, quand on inverse les lettres en Djihou, c'est le premier, number one. Donc c'est dans les traditions kanak, les groupes se perpétuent. C'est-à-dire que la relève revient après, reprend le groupe Neybatch et font autre chose. Eux, c'est plutôt là, c'est dans un studio à Nouméa, c'est plutôt de la musique tchap, donc, qui n'a rien à voir avec le kaneka. C'est l'épouse de Chez Donasson, qui est d'origine indonésienne, puisqu'on construit le destin commun, donc il faut aussi qu'il y ait un mariage entre eux. Okay. Alors, sculpture, donc j'ai passé de musique. André Passa, qui est là, s'est décédé lui aussi. Décidément, c'est une véritable nécrologie, comme quoi le temps. André Passa, qui est ici, avec sa fille, qui est diacre et sculpteur. Vous allez voir, c'est important, parce que je disais tout à l'heure, les superpositions entre le monisme chrétien et les théories ancestrales kanak, elles sont actives encore maintenant. Donc, André Passa est diacre. Il peint des sculptures. Et il me disait dans l'entretien qu'il choisissait des types de bois dont il faudrait que je réinterroge. D'identifier les bois, mais il disait que c'est des bois durs, délibérément, parce que lui, ce qu'il voulait, c'est former, sculpter les formes spectrales, les esprits qui passaient à travers les bois. Les esprits et formes dans le bois. Donc il prenait un bois très dur, un bois typique de l'Ifou, endémique à l'Ifou, avec lequel il travaillait pour faire ressurgir des formes spectrales. Mais vous allez voir que ce n'est pas que des formes ancestrales, puisqu'il va faire aussi des choses qui concernent la religion chrétienne, puisqu'il est diacre. Là, par exemple, le fronton de l'église pastorale de Béthanie, à Répénéé, c'est lui qui l'avait fait. Je voulais interroger Dick Bonne, mais il était aussi dans l'île de l'oubli, un autre sculpteur de Nafalo. Donc là, il a sculpté ce fronton, mais regardez, quand vous regardez bien, il a aussi fait des sculptures qu'on dirait païennes, un énorme phallus, etc. Il n'y a pas de contradiction pour certains entre la religion chrétienne qui était là et puis la pratique ancestrale, ce qu'on appelle la reformulation permanente. Je n'aime pas le nom de syncrétisme, je préfère des superpositions. C'est-à-dire que même, Elie Poigoun est là, Alban Bensal pourra témoigner, Elie Poigoun qui a agrégé de mathématiques, moi j'ai vu des scènes, il dit « moi je crois pas au boucan », etc. Puis quand on va le voir, il va dire « tu ne peux pas voir le cousin là pour telle plante, etc. » Donc, il y a une superposition entre les théories ancestrales et le monisme chrétien. Et par extension, mais je ne vais pas le faire, on pourrait travailler pour dire aussi bien pour le champ politique, le champ économique et autres. Hein, il y a le monisme chrétien, etc. Alors, je finis sur une dernière partie. Délibérément, j'ai mis une diapositive blanche, pour démontrer que, quand même, on m'a reproché, des collègues anthropologues, de tout ramener aux politiques. Mais ce n'est pas de ma faute, moi, si dans le système kanak, la culture structure la politique. Et ça doit nous aider à redéfinir ce qu'on entend par politique. Moi, je n'étais pas passionné de politique. Vous savez, j'ai croisé Jean-Marie Djibouti, dont je vais parler tout de suite. Excusez-moi, pour moi, c'était quelqu'un de quelconque, parce que j'étais plutôt branché platoniste mystique, etc. Et j'étais intéressé par le politique, parce qu'en Nouvelle-Calédonie, le politique est éminemment historique, et les structures sociales kanak déterminent le politique. Djibouti l'avait très bien compris. Dans ces festivals, ce n'était pas que de la culture, c'était derrière reformuler la politique à partir de la culture. Donc la dernière partie, c'est pour montrer en quoi la reformation permanente passe aussi par des pratiques culturelles, des pratiques politiques kanak. Donc ça, c'est la levée de deuil de Jean-Marie Djibouti en mai 89, un rituel coutumier de deuil qui n'est pas propre à Jean-Marie Djibouti. À chaque fois qu'il y a des deuils, il y a ce type de coutume. Mais là, comme Djibouti est un homme charismatique qui a une envergure nationale, il y avait énormément de monde, mais ce monde se situait du côté non pas des Juan Hiri, excusez-moi la prononciation, des entrées de chefferie des maternelles. Les maternelles étaient là-bas, notamment Marie-Claude Djibouti, et tous les autres qui venaient de tous les pays se trouvaient de l'autre côté. Donc vous avez ici le Manou qui symbolise le lien entre les paternelles et les maternelles, le lien du sang qui est redonné, point mort. Donc vous voyez très bien que même si c'est un homme politique internationalement reconnu, il n'empêche qu'il fait partie du pays, et les structures d'échange social sont d'abord des structures kanak. Le politique est structuré par le culturel. Ça, c'est une photographie que j'ai prise en mai 89. J'étais content parce que tous les journalistes du Monde Libération interdits de photographie, puis moi, j'ai pu passer avec l'appareil photo parce que les gens me connaissaient. Donc, j'ai pris c'est la seule photo que j'ai conservée, les autres, je n'archive pas. Bon, c'est pas très bien, c'est vrai. Juste une précision, la photographie est prise à Tiendanit, à Yehen, le pays de Yengen. Jean-Marie Djibouti, son lieu dit, son toponyme, c'est ce qu'on appelle le trou de l'anguille, son récit totémique de clan, c'est l'anguille, que son fils a traduit très tardivement, parce qu'il n'a pas été divulgué ce récit, il a été traduit dans un moivé il y a quelques années. Donc ça veut dire que l'interdit a été levé. Comme quoi. Je dis ça parce qu'il y avait une très belle interview de Jean-Marie Djibouti avec Jacques Violette en 87, qui a été publié après de manière posthume dans Buenando. Puis la première chose que fait Jean-Marie Giroux, c'est qu'en quoi, effectivement, le culturel ancestral détermine le politique. Il emmène Jacques Violette, avec un militant du Palitia qui s'appelait Claude Wedgeau, il emmène vers le tertre. Mais le tertre, là, c'est un trou d'eau. Le tertre, ce n'est pas forcément un morceau de terre. Il dit, là, c'est la source du clan Djibo. Et Jacques Violette demande « Ça signifie quoi? Tu peux nous dire ce que tu dis ?» Non, il renvoie à qui? À Patrice Gaudin, un anthropologue qui a travaillé. Parce que ce n'est pas à lui de dévoiler le récit. Donc il renvoie un anthropologue qui va lui raconter le récit. Il a toujours fait ça, mais pas que lui, tous les Kanaks font ça. Quand Pisani est venu en 84-85, il l'a emmené dans un endroit qui s'appelle, j'ai oublié le nom, qui se trouve au-dessus de Yendanit, où l'insurrection 1917 a été dénouée. Toven, pardon, merci. À Toven, il est devant un kaori qui a été planté en 1917, et qui il dit à Pisani, vous voyez, devant le kaori de mes ancêtres, vous m'avez demandé de signer un traité de paix, bien je dis oui. Bien sûr qu'il y a une ritualisation, il y a une forme théâtrale, mais il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a une ressource d'une décision politique sur l'ancestral. Et les gens là-bas appellent le Kaori Pisani, le surnommé Kaori Pisani. Alors, j'ai fait un travail, je sais qu'il ne m'a pas valu beaucoup d'amitié de la part des gens de Nouméa à l'époque, le conseil d'administration dans lequel je travaillais, mais bon, écoutez, des fois il faut savoir oser. Hein, bon. Sur les rescapés de l'embuscade de 84-85, un des frères de Djibaou, Vianney, Kouya, puis des gens de Tiananit, sauf Jean-Pierre Djaïwe, qui était là, mais puisqu'il donnait un coup de main pour un baraquement, Jean-Pierre Djaïwe, mettant depuis a fait une carrière politique, il était instituteur à l'époque, et les difficultés qu'il y a de diffuser, parce que je faisais des entretiens avec eux pour savoir ce qu'ils pensaient des accords de Matignon-Dinot, puis ils ne sont pas avec le dos de la cuillère, ils critiquaient, à l'époque c'était Léopold Jurédier, qui est décédé depuis, qui était président de la France, et ils critiquaient de manière un peu violente, et moi j'ai diffusé ça, et ça ne m'a pas valu beaucoup d'amitié. Donc, quelquefois, je ne sais pas s'il faut diffuser telle quelle des choses. Enfin, bon. Maintenant, je serai plus prudent, maintenant. Surtout par les temps qui courent. Alors, quand je suis revenu sur un massacre en décembre 84, vous savez que les militants de l'UC sont montés de La Réunion, sont montés sur Tien Danit. Il n'y avait pas que des frères de Djibo, il y avait des neveux, des cousins. Donc, j'ai fait un entretien avec eux, à Wanyat, là où se trouve l'embuscade où se trouvent les maisons qui ont avec les morceaux de Manou, avec Joseph Pays qui n'est plus, Yannick Djibaou, Kouya, et puis leur demander un petit peu ce qui s'est passé, puis ensuite qu'est-ce qu'ils pensent des accords de Matignon, Dino, etc. Donc j'avais fait ce travail-là parce que j'estimais que l'expression, le magazine s'appelle Expression, que l'expression n'est pas qu'esthétique, culturelle ou autre, elle est aussi politique. Et il m'avait semblé intéressant de revenir sur une page politique. Alors, je voudrais conclure sur cette partie avant de passer à la publication. Je voudrais dire plusieurs points. Moi, ce que j'entends par publication, c'est l'entrée kanak dans l'espace public. Il faut entendre public aussi bien l'espace scolaire, le lieu du travail, mais voyez bien les routes. Parce que les routes en Nouvelle-Calédonie, c'est très important, c'est l'entrée, pour reprendre l'expression de Alain Sossol, du front pionnier dans ce qu'on appelle la brousse. Les routes ont permis justement l'expansion de l'Europe à l'intérieur des terres. Et il n'y a qu'une seule route qui fait le tour de l'archipel. Et quand les jeunes Kanaks peignent sur des guérites de bus, c'est une entrée dans l'espace public aussi. Donc j'entends par publication pas simplement le travail éditorial ou le travail de musique, de faire des CD ou des DVD. C'est aussi toute entrée dans l'espace public, en dehors des zones tribales. Alors la publication, pour moi, elle exprime l'entrée dans l'espace public colonial et postcolonial. Et c'est une forme, pour certains, d'une résistance culturelle contre l'ordre mondialisé unilatéral des échanges. Je reprends le texte dense et condensé du regretté, qui est décédé lui aussi, Raphaël Pidgeot, qui était président-directeur général de la Société minière Sud du Pacifique, qui écrit un texte en 1999, un an avant qu'il ne meure. Il dit « Nous, les petites sociétés insulaires, comment tirer notre épingle du jeu de la mondialisation ?» Donc c'est une forme de résistance culturelle qui peut être économique, etc. Deuxième point, je ne suis pas suffisamment martelé, mais je tiens à le dire, il y a des risques de diffusion des récits kanaks. Je le vois bien à l'IFU, mais c'est partout. Hein, si vous divulguez un récit tel quel, ça peut provoquer des guerres, des conflits qui s'apparentent à des rituels de guerre. Donc il y a des risques parce que les récits kanaks dévoilent des patrimoines historiques qui sont l'ancrage foncier, des héritages de porte-parole de clans, des querelles entre clans autochtones, clans allochtones. Et donc, je pense qu'il doit y avoir une stratégie éthique. Avant, on l'avait moins, mais je pense qu'elle devient de plus en plus aiguë, une stratégie éthique, épistémologique et politique de divulguer un récit. À quelles conditions doit-on divulguer un récit? Donc, il y a un travail préalable coutumier, mais même moi, le travail que j'ai fait avec les vieux, il y a Maurice Paul Loubet, il y a un jour qui m'a coincé, qui voulait, je m'a demandé s'il me casser la figure. Il disait, qu'est-ce que tu fais avec nos vieux, qu'est-ce que tu es en train de discuter. Puis après, j'ai vu quelques années plus tard, il est revenu dans une bagarre pour un conflit foncier. Donc, je pense qu'en Océanie, dans les pays, par exemple, les pays kayak, les diffusions doivent être concertées, réfléchies, pas faites n'importe comment. Je dis ça parce que tout le monde dit, il faut patrimonialiser, il faut diffuser. Oui, d'accord. Mais à quelles conditions peut-on diffuser? Ça me semble extrêmement important. Et ce n'est pas simplement déjouer une censure, c'est aussi des risques de produire de la discorde ou des conflits. Il y a des anciens qui ne divulguent pas leurs récits à leurs aînés parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas capables de tenir, je veux dire leur langue, de tenir la hauteur de la responsabilité du récit. Qui vont régler après des comptes quand ils ont des fêtes, des nombreuses fêtes qui scandent les tribus avec des excès d'alcool, ils désinhibent, et puis ils vont utiliser le récit comme une arme. Donc vous voyez, il y a des stratégies aussi de diffusion. Je dirais aussi, troisième point, que le patrimoine, ce n'est pas qu'un stockage. Oui, il faut stocker, il faut sauver. Il faut sauver les objets, les flèches laitières, etc. Mais la perspective de gens comme Jean-Marie Djibaou, ce n'était pas que stocker, c'est stocker, mais pour promotionner des nouvelles formes culturelles. Et c'est ce qui se fait d'ailleurs. C'est ce qui s'est fait à la culture kanaka, la littérature aussi, c'est-à-dire ce que les Kanaks appellent la reformulation permanente. La reformulation permanente, c'est surmonter la double contradiction, les deux risques. À la fois un risque de retour vers un intégrisme culturel, vers une tradition qui n'existe plus, un peu comme certains islamistes aujourd'hui, de retourner vers un passé qui n'existe plus, mais en même temps, l'autre risque, c'est d'aller de l'avant vers la modernité comme une machine folle de l'Occident. Donc c'est dans ces deux doubles écueils qu'il s'agit de surmonter cette double contradiction en puisant dans les sources ancestrales, en produisant des formes nouvelles et en s'appropriant des modèles qui ont été importés par l'Europe. Donc moi, je me suis axé que sur la partie culturelle, mais vous voyez bien qu'on peut l'étendre à d'autres domaines. Quatrième point, alors j'aurais dû mettre Kanaky-Nouvelle-Calédonie, entre guillemets, en Nouvelle-Calédonie, dont certains disent que c'est la Kanaky, d'autres la Nouvelle-Calédonie. Bon, vous lirez ma petite brochure sur cette question-là. Je ne vais pas prendre position, je ne prends pas position. Choisissez le nom que vous voudrez, je vous suivrai. Mais sachez que quand même, des gens disent pour eux c'est Kanaky, pour les autres c'est Nouvelle-Calédonie, et on en est encore là, il va falloir un jour trouver un nom de pays. Mais moi, c'est une autre question. Dans ce pays, dans cette île d'histoire, cette île d'océan qu'on appelle la Nouvelle-Calédonie, pour certains Kanaky, pour certains Nouvelle-Calédonie, la reformulation permanente, au moment où je vous parle, elle persiste et elle signe. Ça continue. Il y aura encore des pratiques culturelles. Et je dirais, tout à l'heure, il y a un monsieur qui est venu, qui m'a parlé, puis j'ai oublié son nom, j'avais fait semblant de le connaître, par courtoisie, qui m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est tendu là-bas, etc. Je n'ai pas osé lui dire, oui, c'est tendu, mais je fais confiance aux politiques qui vont trouver des formules nouvelles. Il y a le bluff, la tension, etc., des risques de dérapage, mais je pense que l'humanité a assez de ressources pour reformuler. Et dans le monde calédonien et kanak, on va trouver des formules nouvelles, avec l'aide de M. Merle et de la France. Quatrième point, patrimonialiser, c'est un néologisme qui n'est pas bien, qu'utilisent certains anthropologues, ça se fait toujours au moment d'une expérience singulière. Je suis stupéfait en ayant travaillé sur Jean-Marie Djibaou, le recoupement qu'on peut faire, je sais que ça va choquer des anthropologues, avec Michel Foucault. Michel Foucault disait qu'il faut toujours penser aujourd'hui. Si vous regardez bien ce que fait Djibaou, être mélanésien aujourd'hui, c'est toujours aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas simplement faire des courts-circuits ou des anachronismes, c'est comment penser l'ancestral de reformuler à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire d'une expérience singulière. Donc il est clair qu'effectivement, l'acte de patrimonialiser, je vais y arriver, il est contemporain d'une expérience singulière, et c'est ce que j'ai pu voir quand je revenais sur des photographies que je n'avais pu regarder, au moment où les jeunes peignaient, ils faisaient un acte de patrimonialisation sans le savoir. Et ça, c'est typiquement des gestes culturels kanak. Il y avait une entreprise dans les années 80-90 qui était construire des maisons en dur dans les tribus, qui s'appelait Teaswa. Teaswa Lang Pai Chi, ça veut dire aussi reconstruire un lieu, un tertre fondateur. C'est un acte de refondation. Donc, En Europe, on croit que la patrimonialisation est un concept nouveau. Moi, je pense que les Canucks faisaient la patrimonialisation bien avant l'arrivée de James Cook et d'autres. Alors, je voudrais finir sur un point que j'ai rajouté. C'est la publication. Parce que je ne voudrais pas que vous croyiez que je me suis focalisé que sur le monde Canuck. J'ai travaillé après sur les trajectoires des autres communautés, notamment les Arabes, les Indonésiens, etc., etc. Au départ, je m'intéressais qu'au peuple Canuck, puis après j'ai étendu au peuple calédonien qui mérite, qu'on s'y attarde, qu'on s'y intéresse, parce que ces différentes trajectoires historiques font la complexité de la Nouvelle-Calédonie. Comment on peut composer une communauté avec l'histoire des trajectoires. Donc, quand je parle de publication, ce n'est pas simplement des mots en l'air, je l'ai fait. J'ai édité, non pas pour éditer, parce qu'il y a des textes, qui ont été censurés, qui n'auraient jamais pu être publiés. Je pense à Yves Wadoy qui a le prix Wesson dans la Monique Canuck. Il est venu vers moi, alléguant à une relation de parenté. Je lui dis, mais ma relation de parenté, la coutume, ça ne m'intéresse pas. T'es Canuck, tu parles de ta société. Il a tapé à toutes les portes. C'est pas la censure directe. Oui, mais tu vas faire un article pour une revue. Et lui, il voulait faire un livre. Mais ce n'est pas le seul. Donc l'acte de publication, pour moi, je ne suis pas un éditeur, je le fais parce que ça me semble important pour comprendre comment les peuples peuvent composer ensemble en Nouvelle-Calédonie. Alors, évidemment, il y a des risques quand on fait ça. Donc j'ai publié des poésies de Luc Enoka Kamui et Georges Wayol Oyren, Poétiou, qui veut dire le cœur de la parole. Alors Georges Wayol, lui, il a des poésies beaucoup plus politiques, Destin commun, qui est une poésie très engagée. Mais même indépendamment de ce que je pensais du contenu esthétique des poésies, que moi je trouvais très bien, mais les universitaires disaient « Oh, c'est pas de la poésie », puis après ils ont changé d'avis, dès lors les gens commencent à être connus, hein. Bon, on peut pas faire un schéma. J'ai me suis dit, s'ils veulent éditer des poésies, il faut éditer des poésies, parce que la poésie dans le monde Canuck, c'est pas que de la poésie, ça touche aussi à une interprétation poétique de l'histoire. C'est une manière de raconter l'histoire. Alors, il y a eu cette publication, il y en a d'autres, hein, je vais en citer d'autres. Luc Enoka Kamui, qui est aussi instituteur, qui a fait un mémoire d'éducateur spécialisé, lien et séparation de l'enfant Canuck, parce que je suis quand même aussi professeur, praticien, je déforme les instituteurs. Et donc, il y a un gros problème chez les instituteurs du pays, ils sont formés à la culture occidentale, même les Canucks, hein. Et du coup, ils n'arrivent pas à comprendre qu'ils doivent ajuster leur pratique avec le monde Canuck. Donc, il y a un instituteur Canuck qui a utilisé les pratiques des échanges Canuck, qui l'a mis en valeur dans un projet pédagogique, il en a fait un essai. Donc, j'ai publié ce petit essai, « Lien et séparation familiale de l'enfant Canuck », qui touche à une thématique très importante, comment articuler le système éducatif occidental avec le système culturel Canuck, pour qu'il y ait véritablement un échange. L'école doit jouer ce rôle-là. Enfin, ça, c'est des mots d'ordre, l'école joue ce rôle-là, mais bon... Dans les faits, la pratique, il y a beaucoup de travail encore à faire. Alors, c'est l'ouvrage dont parlait Anne Billon, ma collègue, tout à l'heure, Tewe Mentila. Vous voyez, on dit Andi en Paititiamuki, du côté de Hopmawap, Tewe, la source des richesses, Jila, c'est l'échange, Tewe Mentila, qui désigne la monnaie. Et Yves Béalogoni a fait un travail remarquable. Et comme j'ai été atteint d'une blessure narcissique à Ouessant, parce que j'ai fait un gros livre sur Jivaou, je n'ai pas eu le prix. J'étais scandalisé, j'ai dit, c'est inadmissible. Et les membres du jury m'ont dit, mais oui, mais il faut aérer, il faut mettre des photographies, etc. Donc comme je suis un garçon intelligent, j'ai pris ces critiques, et j'ai fait un livre très esthétique, et qui a gagné le prix. Le Ouessant. Il y en a qui l'ont eu où je pense. Donc c'est très bien pour lui, parce que c'est le seul Canuck, sauf faveur de ma part, qui a écrit... Le produit sur sa société, sur la monnaie. Il y a eu bien sûr Baudjou Eulégie, mais en tant qu'informateur. Donc, ce travail de publication, ça c'est pas dans mes codes, moi je ne suis pas éditeur, mais il m'avait semblé nécessaire de faire, toujours dans cette stratégie, plus on publie des choses qui ont de la valeur, mieux on construit à une meilleure coexistence entre les cultures, les histoires et les peuples qui vivent dans le pays. Et enfin, pour vous montrer que je ne suis pas branché que sur la culture Canuck, j'ai fait un travail de œuvres et trajectoires, des entretiens sur les espaces littéraires. Dewey et Perry Grodet n'étaient pas encore ministres, passés en tant que ministres. Louis-José Barbançon, que tout le monde connaît, je ne vais pas le présenter, un historien essayiste, historien calédonien. Pierre Wakaugop, un dramaturge Canuck. Gilbert Calambat-Théin, pourquoi ce n'est pas un écrivain, mais enfin il a écrit des textes de chansons. Il a travaillé avec des linguistes, notamment Suzanne Ozanne Rivière, enfin, pardon, c'est son père adoptif qui a travaillé avec Suzanne Ozanne Rivière, qui a des choses à dire au niveau de l'oralité et l'écriture. Nicolas Kurtovitch, qui est un écrivain calédonien. Laurence Leroux, alors ça m'a valu beaucoup de critiques, parce que Laurence Leroux est une métropolitaine qui est mariée avec un oligarque économiste qui s'appelle Didier Leroux, et dont on dit les mauvaises langues, dont je ne fais pas partie, qu'elle a été éditée chez Gallimard, parce qu'elle fait partie de la famille Bolloré, donc le papier est Gallimard. Mais je trouve une saison folle de Laurence Leroux dit beaucoup à la manière de François Sagan ce qui s'est passé pendant les événements. Ce qui m'intéressait, comment des métropolitains, qui étaient soi-disant gauchistes, mais 68, etc., quand ils arrivaient, tout d'un coup, ils avaient des positions conservatrices. Et c'est très bien décrit dans le roman Une saison folle. Donc ma stratégie, c'était de comprendre la position des métropolitains qui arrivent en Nouvelle-Calédonie et comment ils deviennent autres à travers la littérature. Enfin, comment ils deviennent autres, que j'ai interrogé à travers leurs textes. Jean Van Mail, qui représente un petit peu la communauté des Chandang ou des Vietnamiens. Alors, c'est des entretiens sur leur trajectoire de 1998 à 2007 qui ont été publiés. Donc c'est des entretiens que j'ai retranscrits sur leur trajectoire. Et sur leur... Il y a des choses qui sont absolument époustouflantes. Moi, j'ai énormément appris. Je vous donne un échantillon. Nicolas Kurtovitch, qui ne cesse de dire que ses ancêtres, c'est les Tarania, des ouvriers maristes, qui ont été sur le même bateau, l'Acmen, de l'ancêtre de Laurence Leroux. C'est comme ça que son ancêtre, qui était médecin chirurgien militaire dans un bateau, qui a ramené la technique de papier de Chine. Donc il a construit des usines ensuite et toute la fortune des Bolloré. Ils étaient sur le même bateau, pas au même moment, l'Acmen. Donc c'est assez étonnant. Je peux vous garantir, parce que Madame Leroux m'avait passé le manuscrit de son grand-père. C'est les notes d'un médecin militaire, et c'est un manuscrit, bon, pas très excitant du point de vue littéraire, mais intéressant du point de vue de la documentation. Donc j'ai appris pas mal de choses en faisant des entretiens. Ma stratégie, elle était, à cette époque-là, anthropologique, c'est comment, à travers des textes littéraires, comprendre l'inscription des communautés dans l'espace politique à travers l'étude de leur style, à travers leur écriture. Donc j'y allais avec beaucoup de détours, les interroger sur... etc. Et la plus exigeante, c'était des Wegorodé, qui était comme une maîtresse d'école et qui corrigeait mes transcriptions. Casse-pied. Hein. Mais c'est bien. Mais elle était très exigeante sur le... elle voulait que ce soit oral, mais très bien transcrit. Et il y a des choses extrêmement poignantes et intéressantes. Je vous dis ça parce que la stratégie était double pour moi. Je vais finir là-dessus. La stratégie était à la fois de comprendre, d'un point de vue anthropologique, comment les communautés se constituent en peuple et s'inscrivent dans un espace politique, stratégie qui est encore actuelle, et aussi, la stratégie, c'est de jouer l'en commun. On dit beaucoup, là, après le 7 janvier, faut vivre en commun. Non, faut pas vivre en commun. Oh là là. Faut construire en commun. C'est pas la même chose. Vivre en commun, on vit en commun. C'est construire en commun. Et la construction en commun passe aussi par l'expression littéraire. Les artistes, quand ils s'engagent un peu, parce que des fois, il faut... L'espace de publication par la littérature permet des échanges interculturels, même si c'est des espaces très cloisonnés. Donc la stratégie était double, à la fois épistémologique, comprendre comment des communautés se constituent, s'inscrivent dans l'espace politique par l'écriture, parce qu'il y a des jeux d'écriture, et en même temps d'essayer de contribuer, à ma manière, à faire en sorte qu'il y ait un espace de publication qui puisse permettre... ce qu'on on essaye de faire petit à petit, en Nouvelle-Calédonie, de construire de l'en commun. Chose qui est encore très difficile. Voilà, je vais m'arrêter là. À moins qu'il y ait une autre diapo, je pense pas, non, c'est fini. Et voilà.
Merci beaucoup, Hamid. Nous allons vous passer la parole. Donc, s'il y a des questions, il y a des micros qui circulent. Et donc, n'hésitez pas. C'est la première qui est toujours difficile.
Combien de langues sont-ils parlées? Ah, non, non, je... Non, je bafouille. Non, je bafouille. Je bafouille quelques mots en langue tchimouki. Je comprends un petit peu quelques mots de langue, mais je suis pas linguiste. Hein. C'est des langues difficiles. Si, je connais les mots classiques, hein, des grands amènes de bière. Enfin, je viens pour un coup de bière ou je sais pas, manger, etc. Non, mais je vais être un peu sérieux. Dès lors où il s'agit de comprendre les concepts précis des langues kanak, je fais un effort. Comment on dit clan? Par exemple, le discours à la mode, c'est autochtonie. Mais quand vous donnez des mots des langues, c'est plus concret. C'est homme du pays. Vous voyez? Donc, je suis obligé de temps en temps de faire un effort pour comprendre les catégories de langues. Mais j'ai beaucoup travaillé avec des locuteurs qui m'ont beaucoup aidé parce que je ne pouvais pas faire multiplier les terrains. Et puis, même quelqu'un qui est très génial, on ne peut pas être polyglotte, sauf les anciens qui parlent 3-4 langues. Je travaille avec des locuteurs. Mais je fais un effort pour essayer d'être le plus précis dans les traductions et de comprendre les catégories et les concepts. Sinon, dans le langage... Vous savez, parce que votre question m'amène à préciser une chose, il y a des registres de langue. Je m'en suis aperçu, par exemple, dans la quotidienneté, on parle un langage, les Kanaks parlent un langage familier. Mais quand il y a des rituels coutumiers, il y a des mots qui ne sont plus employés. Et j'ai, par exemple, traduit un discours de deuil avec Dan Poigoun, on a mis une nuit d'après-midi. Parce qu'il y a des mots qu'ils ne comprenaient pas et qu'il fallait chercher, quoi. Donc moi, j'en comprends quelques fois quand les gens parlent. Surtout quand j'étais à Tours, je commençais à comprendre. Mais je suis pas capable de tenir une discussion élaborée. Mais je fais l'effort de comprendre les catégories, les concepts pour éviter des plaquages occidentaux sur les cultures et sociétés. Il faut dire que c'est pas facile d'apprendre des langues. Hein. Bon, il y a Alban qui est là qui pourra en parler. Parce que si vous apprenez le chinois ou l'arabe, c'est difficile. Mais l'arabe, il y a des grammairiens, il y a des écritures. Là, il faut apprendre tout dans l'oralité. Il y a des gens comme André-Georges-Audricourt, un peu Lénard, Audricourt, qui ont fait des pères aussi, qui ont fait des dictionnaires, qui ont permis... Mais la difficulté, c'est que c'est des langues orales, et c'est pas comme des langues où il y a des travaux d'écriture. Je vais être honnête, je vais pas vous mentir, baratiner, ouais, je parle bien, c'est pas vrai. Mais les premiers mots qu'on apprend, c'est marrant, c'est toujours des gros mots. Hein. Oui, ouais. À cause des interjonctions. Anchanem.
Ah.
Oui, oui.
Et j'ai fait 2 ans de Wailou.
Bravo.
Mais j'ai complètement oublié. Mais à l'époque, ça existait. Je ne sais pas si ça existe.
Si, c'est les langues qui sont encore enseignées aux Langzhou. Et à la fac de Nouméa.
Merci déjà pour votre exposition, toutes les photos, les explications, etc. Puis d'avoir valorisé aussi le quotidien des gens. Parce que la guérite, c'est quand même. Tout le monde n'a pas de voiture. La guérite, au-delà de ce que vous avez expliqué, de manifestations, oui, etc., oui. Ça nous accompagne aussi au quotidien. Et justement, en voyant une des photos que vous avez prises de cette représentation du grand frère Eloi Machaut avec les lunettes, et vous avez dit que c'était surprenant parce que c'est des gens qui ne sont pas des artistes, qui font ça comme ça. Et quand j'ai vu cette image, ça m'a fait penser aux après-midi qu'on peut passer des fois. Et justement, comme vous vous intéressez à ce qui peut aussi tous nous réunir, autour des manous, quand on fait des manous avec des pochoirs, des choses comme ça. Et c'est vrai que dans l'esthétisme de cette image de Machoro, il y avait ce rappel aux pochoirs qu'on peut utiliser. Et je me demandais si c'est quelque chose qui vous interpelle par rapport à votre recherche, si c'est quelque chose sur lequel vous pourriez rebondir. Je vous remercie.
C'est une question difficile parce que... Non, mais je dis pas que votre question a beaucoup de sens, mais de pertinence, mais moi je me qualifie pas comme étant un artiste, et il faudrait demander aux artistes, les peintres kanak. D'ailleurs, ce qui est étonnant, je voulais faire un livre à un moment donné. Là, j'ai parlé que des hommes, mais les plus grands peintres actuellement, c'est des femmes. Je voulais faire un travail sur les peintres kanak femmes, pourquoi elles ont un rapport à la peinture, etc. Et ce type de questions, c'est plutôt à ces personnes-là qu'il faut leur poser le choix des techniques, le choix, etc. Ouais. Alors, le manou, il y a beaucoup de discussions en ce moment. Il y a un ami qui travaille à la province nord qui disait qu'il faudrait supprimer le manou et remettre les nattes dans les coutumes. Il est gentil. Il est gentil. C'est un mot d'ordre, mais qui commence, parce que tout le monde utilise le manou dans les coutumes. Donc le manou, c'est un morceau de tissu qui sert dans les échanges coutumiers, mais Quant à l'usage qui en est fait des arts visuels, moi je ne suis pas très compétent pour répondre. Ce n'est pas que je botte en touche, je ne vais pas dire non plus n'importe quoi. Ah si, j'en ai parlé là, le diacre. André Passa qui est diacre. Non, je vais être sérieux. Je voulais faire un travail avec un diacre de Webia, Wayaget, sur comment il traduit la Bible. Parce que par exemple, le chef Alifou, si, Azé, ça veut dire serviteur de Dieu. Et c'est Dieu est traduit par Azé, qui veut dire esprit. Je voulais faire ce travail-là, puis je l'ai laissé tomber, je l'ai laissé de côté. Et je vous ai dit, comme tout à l'heure, je vous ai dit d'entrée de jeu, moi je me suis intéressé à l'expression des identitaires dans lesquels j'étais contemporain. Les guérites de bus, les groupes de musique, etc. Mais votre question est tout à fait pertinente, et j'avais vu une chose qui m'avait stupéfait dans les années 90, c'est la multiplication des sectes religieuses. Va-et-vient, témoins de Jéhovah, etc. etc. Et qui étaient comme des points de repère, même la Fatima qui circulait de tribu en tribu, etc. Il y a Alus qui a travaillé là-dessus, il y a d'autres qui ont travaillé là-dessus. Moi, je n'ai pas travaillé là-dessus, d'où la réponse à votre question. Vous avez raison d'être étonné. Je m'étonne moi-même que je ne me suis pas intéressé à la religion, qui est pourtant un problème extrêmement important. Ce que je peux dire tout de même, c'est que je suis convaincu qu'il existe des pratiques spirituelles kanak, des relations aux ancêtres, qu'on peut classifier de sacrales ou sacrées, ou entre guillemets de religieuses, qui ont été effectivement acculturées par le régime colonial, parce que les plus grands ethnologues de l'époque, c'était des gens de l'Église, pour traduire la Bible, etc. Ethnologue au sens très contesté par l'ethnologie professionnelle de maintenant. Mais la stratégie, c'était d'acculturer, d'évangéliser. Mais je suis stupéfait quand même que, malgré tout, subsistent encore les pratiques spirituelles kanak. Par exemple, les coutumes, ce n'est pas que des échanges économiques de dons et de contre-dons. Il y a aussi une spiritualité derrière. On fait le lien entre les vivants et les ancêtres. Le sang des morts demeure vivant. C'est une forme de religion qui n'a pas été du tout déviée dans sa orientation par les différents monothéismes, protestants ou catholiques, qui ont été implantés par la colonisation. Vous avez raison, il y aura un travail à faire un peu rigoureux là-dessus, de la reformulation des pratiques. Par exemple, le prêtre Aprikawa, bon, plutôt que de converser ou de dialoguer avec un juriste, ce serait intéressant qu'il fasse une analyse là-dessus. Il voulait le faire. Non, mais je ne plaisante pas. Il est mieux placé en tant que kanak qu'en tant que prêtre pour réfléchir là-dessus. N'oubliez pas que Jean-Marie Gévaud était prêtre. Il a demandé sa réduction à l'état laïque. Et il avait des éléments de réflexion sur le christianisme. Et lui, il préférait la Bible plutôt que les nouveaux évangiles, puisqu'il disait qu'il y avait plein d'histoires généalogiques qui ressemblaient aux histoires généalogiques kanak. Donc vous avez raison, j'en ai pas parlé, exceptant, j'en ai parlé en manière oblique et biaisée, mais non pas frontale. Pour deux raisons. La première, ce qui m'intéressait, c'est l'expression des signes contemporains dans lesquels j'avais fait de magazines. Et la deuxième, c'est qu'effectivement, il faut faire un travail plus soutenu. Et je pense qu'il faut démarrer des langues. Comment sont traduits les concepts chrétiens dans les langues? Par exemple, Azé, c'est le diable, c'est l'esprit. Et c'est le mot qui sert à traduire Dieu. Et moi qui suis un formateur de formateurs, je fais dans les classes, les visites de classe. Et j'étais à Ifou, dans des écoles publiques, mais qui sont travaillé par le protestantisme, et il y avait des jeunes filles à la récréation, des filles de 8 ans, 9 ans, qui, pendant la récréation, lisaient la Bible en dieu. Et les parents disaient, c'est pour apprendre mieux apprendre la langue. Et là, j'étais employé comme formateur ou déformateur, je n'étais pas employé en tant que chercheur. Moi, en tant que chercheur, ça aurait été intéressant de savoir quel est le rapport à l'écrit, la transmission, la langue, etc. Et je pense qu'au préalable, pour bien répondre à votre question, il faudrait faire des enquêtes au niveau des traductions, puis après élargir. Mais moi, je suis convaincu, l'hypothèse que j'ai, c'est qu'il y a une superposition entre les pratiques ancestrales et le monothéisme chrétien.
Excusez-moi, merci, on enregistre la conférence, donc merci de prendre un micro pour poser les questions.
Oui.
Ouais, alors là, moi, je vais être un peu polémique, hein, parce qu'il y a Patrice Gaudin qui parlait de mythes et politiques dans un texte sur Tjibaou. Le mythe, c'est... évidemment, ce qu'on appelle par mythe, il y a des récits historico-politiques. Il y a des récits historico-politiques qui scandent 1878-1917 et qui sont reformulés, notamment dans la séquence politique révolutionnaire, qui sont encore reformulés maintenant. Je pense qu'il faut être un peu rigoureux, ce n'est pas simplement des mythes, c'est des récits très précis qui sont transmis d'une manière très précise. Ensuite, quand je dis que je ramène tout à la politique, mais non, madame, le politique explose au niveau culturel, il est partout. Ce n'est pas la politique simplement au sens de la contestation d'un régime colonial, c'est dans les rapports stratégiques qui existent entre les hommes, femmes, les stratégies de discours, l'ordre du discours, la parole, comment je vais prononcer, etc. Et on connaît certainement Djibaoud dans Fessal en 2000, mais ce n'est pas que lui. Les structures ancestrales déterminent les actions politiques. Et là, je ne pense pas qu'on puisse rabaisser ça à la réduction de la catégorie de mythe. Je pense qu'il y a des récits historico-généalogiques qui ont du sens et qui sont reformulés et pratiqués par des acteurs politiques contemporains. Alors, bien sûr, je comprendrais très bien l'objection que ferait un politiste. Oui, mais attendez, il y a quand même une sociologie du politique, il y a de la machine électorale, il y a des élections, il y a des partis politiques, des institutions. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y en a qui font des carrières politiques au sens, maintenant, global, globalisé. Mais il n'empêche que, moi, je suis convaincu que par-delà cette catégorie des partis politiques, l'arrière-fond, il est structuré par l'histoire et la culture qui structure et détermine les actions politiques dans le monde kanak. Et qui ont pris, ils prennent des déterminations, des modalités précises. J'ai écrit un petit livre éditant des textes qui s'appelle « Le discours politique kanak » sur Jean-Marie Djibaou, Ewa Machoro, Roch Deo Pidjo et Raphaël Pidjo, où je traçais leur trajectoire et je mettais des discours à l'appui. Le discours politique kanak, ce n'est pas simplement prendre la parole et faire un discours, c'est des pratiques qui actualisent une action et qui se ressourcent à chaque fois sur l'histoire. C'est pour ça que c'est intéressant d'ailleurs. Oui, oui, d'accord. J'entends bien. J'entends bien. Vous avez raison.
Est-ce que le slam participe de la reformulation permanente?
Bah oui. Notre brave Wamo fait du slam. Bon, ben, c'est de la reformulation à sa façon, bien sûr. D'ailleurs, le slam des Kanaks, il est quand même particulier. Hein. Il a une connotation assez particulière, bien sûr. Mais je n'ai pas parlé de tout.
Oui, bonsoir. Donc moi, j'ai cru noter et comprendre que vous disiez donc pour la période 84-85
oui.
Que l'idée de Kanaki, enfin la
oui.
Constitution de du pays en tant que Kanaki,
oui.
N'était pas encore constituée. Donc je voulais savoir si la culture, comment la culture participe à cette constitution. Et à partir de quand on peut dire que les gens revendiquent l'idée de Kanaki?
Là, il faut être très positiviste et avoir une rigueur au niveau des archives et de l'écriture de l'histoire. Le 18 novembre 1984, c'est la date de décision de la part du Congrès de l'UC et suivie par le Palika de boycotter des élections territoriales organisées par le statut de Bernard Ponce. Ce boycott avait été décidé dans des congrès politiques. C'est... pardon, le moine, excusez-moi. Excusez-moi. Je m'excuse, c'est un lapsus linguae. Le moine. Bon, enfin. Non, c'est le moine. Ouais. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que les socialistes, quand ils font leur propagande en Nouvelle-Calédonie, disent que c'est grâce à nous qu'il y a eu des accords politiques, mais c'est grâce à eux aussi qu'il y a eu des. C'est au moment. Bon, c'est sur ça. Excusez-moi, c'était le moine. Donc, 18 novembre 1984, décision du boycott actif. Parce que le FNKS n'était pas encore créé. Le FI, Front indépendantiste, qui a participé à un congrès à la ville des Roches. Congrès où il y avait le RPCR, le FI, la FNSC, l'État. Il avait été décrété que, reconnu par un acte qui n'a pas été signé par Jacques Lafleur, on octroie la possibilité de voter aux peuples autochtones, on l'élargit aux autres communautés qui ont fait souche, qui étaient appelées les victimes de l'histoire, et on reconnaît l'indépendance comme un droit inné et actif. En 84, le statut de Georges Lemoine et non pas de Ponce, le statut de Georges Lemoine, revient sur la décision du corps électoral l'élargit à des citoyens français qui ont à peine un an ou deux ans de résidence. C'est comme ça qu'a commencé la décision de boycotter. Il n'y a pas que cette raison-là. Mais techniquement, au départ, si on lit bien les archives des congrès, c'était perçu comme étant, le mot d'ordre, une destruction du peuple kanak, puisqu'on minorait le peuple kanak dans son expression. Ensuite, les choses se sont accélérées. Le FLNKS, qui a été créé le 24 septembre, est sorti des institutions et a créé, en décembre, le gouvernement provisoire de la République de Kanaky. C'est à ce moment-là que le nom Kanaky apparaît, que le nom Kanaky, en tant que nom revendiquant la souveraineté nationale du peuple kanak, apparaît. Je ne dis pas qu'il y avait des arrière-fonds culturels qui existaient avant, mais si on veut être un peu positiviste, l'apparition du nom Kanaky apparaît en décembre 1985. Preuve en est, c'est que ces deux jeunes peintres, eux, disaient dans leur interview, c'est le territoire FLNKS. Ils ne disaient pas territoire de Kanaky. Territoire FNKS, c'était FNKS qui était en 84. Kanaky apparaît en décembre 85. C'est pour ça que je disais que, au niveau des faits, au niveau de la chronologie strictement positiviste, si on reprend l'avant, pour reprendre l'expression de quelqu'un qui est dans la salle, l'avant explique l'après, le nom Kanaky apparaît en 85, dans ce contexte-là. Et je dis, là je rajoute quelque chose en plus que je dis là maintenant, je ne suis pas d'accord avec certains historiens, il y a des historiens qui ne font pas d'histoire en fin de compte, qui récusent qu'il y a eu à ce moment-là l'apparition d'une séquence d'événements révolutionnaires. Puisque le peuple kanak va se constituer en tant que peuple kanak à partir de 84-85, en s'identifiant à tous les autres pays kanak. La montée du nationalisme apparaît en 84-85. Je pourrais vous le démontrer par A plus B, par des archives, etc. Parce que je le dis avec beaucoup de méchanceté et de cruauté, il y a des historiens locaux en Nouvelle-Calédonie qui ne font pas leur métier. Ils sont là dans les traditions des Ouïdir. Comment ? Non, il y a des historiens qui font pas leur métier. Non, mais il y a des historiens qui ne font pas leur métier. C'est pas l'insularité qui ne font pas leur métier. Non, parce que Lionel Jospin disait la même chose. Il a dû faire passer une loi pour dire que ce qui s'est passé en Algérie, ce n'est pas des événements, c'était une guerre. Il y a des historiens qui ne parlent pas de guerre, qui parlent d'événements, qui est un euphémisme. C'est pas l'insularité. C'est une manière d'écrire, de récuser l'écriture de l'histoire en refusant le réel, c'est-à-dire en ne pas travaillant sur les archives, en écoutant sur les discours kanak, etc. Moi, je ne suis pas partisan de la révolution, mais je vous dis que pour eux, pour des gens comme Éloi Machereau, comme Jean-Marie Dieu, c'était une révolution. C'était perçu comme tel. Alors après, effectivement, on peut dire non, ce n'est pas une révolution, mais c'était perçu. Alors c'est pour ça que je réponds précisément à votre question. La constitution de la souveraineté de la Kanaky apparaît en 85, dans une charte et dans des discours et dans des mots d'ordre.
Une dernière question, peut-être ?
Oui, bonsoir.
Il faut que je me calme, il ne faut pas que je m'emporte. Il n'y a aucune raison de s'énerver.
J'aurais juste voulu savoir si vous pouviez revenir rapidement sur, vous l'avez évoqué, justement sur le rôle des monnaies dans cette reformulation permanente, et notamment par le biais de la publication du livre d'Yves Béalogoni, et justement le rôle que peuvent jouer ces monnaies.
Moi, je vous conseille vivement de lire le livre d'Yves Béalogoni, parce que c'est un livre très très, 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 très documenté. Il a travaillé depuis plus de 20 ans là-dessus. C'est un kanak, un ethnologue, il a travaillé depuis 20 ans. Je vous garantis que c'est un excellent livre. Je vous recommande vraiment, franchement, vous aurez des questions à toutes les réponses. Ce qu'on peut dire, c'est que quand même, les monnaies qui existaient, vous voyez les monnaies que vous avez dans les musées ou dans l'art kanak est une parole, qui est l'exposition qu'il y a eu, c'est des monnaies qui n'existent plus ou qui ne sont plus monnayées, enfin qui ne sont plus échangées. Elles sont fabriquées avec des éléments, comme par exemple, je disais, les poils de roussette sont remplacés par de la laine. Donc il y a des éléments qui sont pris, mais ce qui subsiste, c'est quand même la structuration des éléments, la hiérarchie, etc. Donc pour en dire plus, moi, que je vous renvoie au travail de Yves Béalogoni, qui est beaucoup plus compétent et beaucoup plus expert que moi sur cette question-là. Mais lui, il a une thèse qui est très, très puissante. Il dit que c'est de la modernité. Ce n'est pas simplement une monnaie monétaire. Ça permet d'accroître des capitaux sociaux de relations d'échange. Et c'est moderne dans le sens où ça construit de l'en commun. À la limite, j'ai entendu tout à l'heure, je suis venu ici, j'ai écouté le DVD où Dewe Gorodé parlait de l'arcana qui est une parole. Puis elle disait, il y a une question de quelqu'un, c'est des coutumes de réconciliation. Elle dit non. Nous, moi, je préfère dire faire la paix. Et elle a raison. Faire la paix, c'est puissant. La monnaie sert, enfin, ce qu'on appelle la monnaie, sert à tisser des relations sociales, à tisser du lien. Et c'est une forme de modernité. Et si vous me permettez, je fais un rapprochement avec ce qui se passe aujourd'hui. L'islam, ce n'est pas la soumission, comme le disent certains. L'islam, littéralement, la voyelle trilétaire en arabe, Salama, Salaim. C'est la puissance du salut, la puissance de faire la paix. C'est une force. C'est la force de faire la paix. C'est pas... Et le djihad, la guerre, excusez-moi, je fais une bifurcation, mais bon, c'est aussi une forme de guerre contre soi. C'est ça la puissance de l'islam. Eh bien, dans le monde kanak, c'est pareil. Quand il y a des puissances coutumières et la monnaie sert à ça, c'est réconcilier. Alban Bensa a écrit un très beau texte, je le cite, c'est pas d'insularité, je le cite, sur la guerre d'Ataï. Il a une formule très, très saisissante. Ce que je reproche, c'est qu'il a zappé sur Apollinaire Nova, mais il a changé d'avis depuis. Ataï, parce que Anova disait la même chose, le sacrifice d'Ataï produit de la paix et permet aux blancs et aux noirs de se réconcilier. Et bien, le sacrifice des chefs, y compris les lois Machero, c'est pour ouvrir la route vers la paix. Donc la monnaie, ce n'est pas simplement un objet, etc., esthétique. Ça a une puissance de discours qui est accompagnée d'une pratique discursive, d'un discours. Mais lisez le remarquable travail de Yves Agoni et lisez aussi La guerre d'Ataï, préfacée par Alban Bensa. Vous voyez, je fais de la promotion, de la publicité, qui parle bien de ça dans les chiffres, l'ouverture vers la paix. Et je maintiens ce que je dis. J'écrirai un texte le 7 janvier, pas maintenant, parce qu'il y a une guerre des passions médiatiques. Je suis convaincu qu'une des lectures de l'islam, c'est la puissance de paix. On pourrait faire une analogie avec ce que font les Kanaks quand ils font des gestes coutumiers. La poignée de main de Tchibaou à la fleur, ce n'est pas du cinéma. C'est une puissance d'ouverture vers la paix. Et Aimé Césaire l'a très bien vu. Et la monnaie, ce n'est pas simplement qu'un objet. C'est aussi accompagner une pratique culturelle. Ça sert à faire des traités de paix, à faire des alliances, des coutumes de naissance, etc., etc.
Sur ces paroles de puissance et de paix, nous allons peut-être terminer. Merci beaucoup, Hamid.
Non, merci à vous.
Merci à tous.